Bien le bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du vendredi 17 novembre 2017. C'est Hélène Bédard qui vous parle. Et avec moi, en studio, j'ai Francine Forgette. Bonjour, Francine.
Bonjour, Hélène. Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Bon. Êtes-vous prête pour la neige?
Oui. Ah oh, oui, depuis la semaine dernière.
Depuis la semaine dernière, moi, c'est bien. Bonjour, Mathieu.
Bon matin.
Merci. Alors, nous y allons dès maintenant pour la présentation de nos sujets. Francine, vous nous amenez où aujourd'hui?
Alors, on va parler de l'intelligence des arbres.
Oh là là!
De leur relation, ils ont leur petit réseau Internet, ces fameux arbres. Et aussi, du côté technologique, on va parler du Bitcoin et de la crypto-monnaie.
Oh, fort intéressant! Vous allez me débroussailler ça, parlant d'arbres et parlant de cette crypto-monnaie. Mm-hmm. Et de mon côté, moi, je vais vous entretenir des mots qui libèrent, la suite de l'enquête menée par Noémie Mercier, et surtout de hommages et témoignages de Mme Monique Bégin. Je vous reviens avec la suite dans un petit moment. Alors, je vais céder le micro à Francine. C'est à vous.
Oui, bien merci Hélène. Alors, dans le point du 2 novembre, il y a eu un dossier vraiment très complet sur les arbres et aussi très fascinant. Alors, je vais vous faire référence en fait à deux articles. Le premier parle du système de communication des arbres. Alors, comment ils se parlent, ces fameux arbres? C'est un dossier de Frédéric Lewineau. Alors, connectés comme nous, ils communiquent grâce à un réseau. Amitié, solidarité, instinct maternel, toutes ces valeurs qu'on croyait réservées à l'homme, du moins à certains, il faudrait dorénavant les appliquer aux arbres? Absolument, clament certains botanistes. C'est l'une des grandes découvertes récentes. Les arbres ne sont plus seulement des usines chimiques à fabriquer du bois et de l'oxygène, sans intelligence ni âme. Un arbre, monsieur, est une créature sensible, capable de communiquer avec son voisin, de l'alimenter en cas de besoin, et même de le mettre en garde à l'approche d'un ennemi. La forêt est une communauté solidaire, une famille, diraient certains, qui affronte d'une frondaison commune la dure réalité de la vie. Pour communiquer, elle utilise les champignons filamenteux connectés aux racines. C'est son Internet à elle. Les mycéliums, filaments, forment un extraordinaire réseau de communication. 80 000 ans. Jusqu'alors, l'arbre était considéré comme un individu unique et indivisible. Eh bien, nous nous trompions. La plupart des arbres sont en effet constitués de plusieurs individus partageant le même tronc. Chaque grosse branche, est un individu partageant un même tronc, mais utilisant sa propre plomberie pour acheminer sa sève depuis ses racines. Le tronc joue donc le rôle du socle mort de la colonie végétale, comme le fait un massif corallien. Selon Allais, qui est un grand botaniste dont nous parlerons tantôt, cette vision corallienne confère à de nombreux arbres l'immortalité. En effet, les bourgeons à l'origine des grosses branches possèdent un génome tout neuf, sans aucune marque de vieillissement, comme s'ils sortaient de la graine. Bref, ces bourgeons donneront naissance à de nouveaux individus qui se déploieront sous forme de branches. L'arbre est donc théoriquement immortel grâce à ce renouvellement perpétuel, tout comme un massif corallien. À moins qu'un événement extérieur, tel un incendie, une attaque de parasites, une maladie ou un bûcheron, ne croise sa route. Par exemple, un pin, bristlecone de Californie, affiche 5068 ans. La régénérescence peut également se faire à partir des racines. Ainsi, une forêt de l'Utah est constituée de 47 000 peupliers faux-trembles, tous issus d'un même système racinaire, affichant 80 000 ans. Il est donc apparu bien avant que l'espèce humaine ne déboule en Europe. Non seulement les arbres sont immortels, mais ils savent communiquer entre eux, s'entraider. Cette stupéfiante découverte date d'à peine 20 ans. En cas de danger, ils émettent des molécules dans l'air et utiliseraient les mêmes champignons qui les nourrissent comme cordon alimentaire. Certains évoquent un Internet des plantes, sauf que ce sont des molécules qui sont transmises. La girole, le cep et tous les champignons dont on se régale à l'automne ne sont que des organes sexuels d'organismes filamenteux, les mycéliums, incroyablement longs. Sous le pas d'un promeneur, il y a jusqu'à 450 km de mycélium à peine visible à l'œil nu. Ces champignons ne se bornent donc pas à coopérer avec chaque arbre pour lui apporter eau et nutriments. Ils le relient aux autres. C'est un réseau souterrain inextricable. Solidarité. Les transferts ne s'arrêtent pas au sucre. Les arbres s'échangent également l'azote et le phosphore. Le mécanisme déclenchant ces transferts reste inconnu, ce qui n'empêche pas certains botanistes et forestiers d'évoquer une solidarité familiale. Suzanne Simard compare carrément la forêt à une famille humaine organisée sur le modèle de nos neurones et de nos réseaux sociaux. À ses yeux, les plus vieux arbres de la forêt agissent comme des mères maternant leurs jeunes voisins. Plus les arbres sont stressés, plus les arbres mères les nourrissent, dit-elle. Sans cette aide, beaucoup de semis ne survivraient pas. Des études récentes suggèrent que ces arbres mères privilégient leurs descendants sur les arbres non emparentés. De là à considérer que les champignons ne sont que des tuyaux mis à la disposition des arbres pour resserrer leurs liens familiaux, c'est une interprétation qui gêne certains biologistes, comme Marc-André Solos. Le champignon n'est pas qu'un tuyau passif. Son intérêt est d'entretenir des liens avec un maximum de plantes au cas où l'une d'entre elles crèverait. En transférant du carbone d'un arbre à l'autre, le champignon a au moins l'assurance d'avoir des partenaires dans l'avenir. C'est une façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, qui manipule l'autre? L'arbre ou le champignon? Les deux, mon général, répond l'auteur du dossier. Alors, c'est un article issu du Point du 2 novembre sur les arbres.
Excusez-moi, j'ai un petit problème.
OK.
Ça arrive.
OK.
Donc, les étudiants en ont.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Après cet article qui était si intéressant qui a fait geler mon ordinateur, c'était Lou Reed, Take a Walk on the Walk Side.
Pour le bénéfice de tous les auditeurs et pour le mien aussi, Francine, j'aimerais que vous nous recitiez la source de cet immense document fort intéressant.
Oui, je vais y revenir de toute façon tantôt. Alors, donc l'auteur, c'est Frédéric Lewineau qui a fait un dossier très étoffé sur les arbres. C'était dans le Point du 2 novembre dernier.
Merci beaucoup. Merci. À lire et à continuer de nous intéresser, à continuer de nous instruire, Francine. Pour ma part, je vais poursuivre avec l'article que j'ai déjà débuté les deux semaines précédentes, c'est « Les mots qui libèrent », une grande enquête de Noémie Mercier à la prison de Joliette. Voici donc un autre volet de cette étude. Dans certains pays, la lecture en milieu carcéral est si valorisée qu'elle permet aux détenus d'alléger leur peine. Au Brésil, depuis 2012, les prisonniers fédéraux peuvent écourter le leur quatre jours pour chaque livre lu. Donc, au Brésil, les prisonniers peuvent écourter leur peine de 4 jours pour chaque livre lu et résumer dans une dissertation jusqu'à une concurrence de 48 jours par année. En France, une réforme adoptée en 2014 prévoit des remises de peine pouvant attendre 2 mois pour les détenus qui rédigent des comptes rendus de leur lecture. Aux États-Unis, des criminels peuvent même éviter le bagne s'ils s'inscrivent à un programme de 8 à 12 semaines sur la littérature, animé par un professeur d'université, un juge et un agent de probation. Fondé en 1994 au Massachusetts, Changing Lives Through Literature existe aujourd'hui dans une dizaine d'États. Ce sont surtout des délinquants au passé lourd, considérés comme à haut risque de récidive, qui ont été sélectionnés pour y prendre part. Et tout indique que ça fonctionne. Les sociologues en ont évalué les résultats dans le cadre d'une étude publiée en 2013 dans la revue Journal of Offender Rehabilitation. Ils ont examiné les dossiers criminels de plus de 1200 contrevenants en liberté surveillée. La moitié ayant participé au programme et les autres non. Ceux qui l'avaient suivi ont eu moins tendance à récidiver dans les 18 mois subséquents que ceux qui n'y avaient pas adhéré. Leurs délits ont été non seulement moins nombreux, mais surtout moins graves. Quelques heures à causer littérature peuvent-elles vraiment transformer des criminels endurcis? Aucune étude contrôlée n'a encore été menée sur les clubs canadiens, les clubs de lecture canadiens, s'entend, mais le modèle qui les a inspirés au Royaume-Uni a fait l'objet d'un examen en profondeur. L'organisation Prison Reading Groups, rattachée à l'Université de Roehampton à Londres, chapeaute plus de 40 groupes du genre dans les prisons du pays. Le rapport, paru en 2013, fait état d'un vaste éventail de répercussions positives chez les détenus, de l'empathie à la littératie, de l'aptitude à communiquer à l'estime de soi, en passant par le sentiment d'appartenance et surtout la capacité d'introspection. Ce ne sont pas que les mots sur les pages qui décadenassent les esprits, c'est aussi le fait d'en discuter en groupe et d'être placé devant des points de vue dits différents et divergents. La patronne du pénitencier de Joliette, Mme Cynthia Racicot, semble désormais gagner au bienfait de cette activité. L'éveil au plaisir de lire peut, selon elle, aider les femmes à poursuivre leur parcours scolaire, à les préparer à occuper de meilleurs emplois, des remparts essentiels contre la criminalité, on s'entend, leur capacité d'entrer en relation avec les autres et de gérer les conflits s'en trouve également améliorée, constate la criminologue de formation rencontrée dans une des salles de conférence de cet établissement. Ça brise l'isolement, poursuit-elle, puisque ce sont souvent les mêmes femmes d'une réunion à l'autre. Un lien de confiance s'établit et ça devient possible de se livrer, de parler de leur émotion, de ce qu'elles n'ont pas été capables de faire auparavant. Mais à l'échelle du pays, la place qu'on accorde à la lecture en prison dépend davantage du bon vouloir des gestionnaires d'établissements que d'une politique institutionnelle cohérente. Et tous, malheureusement, ne lui réservent pas le même enthousiasme. Je vous fais part de la suite la semaine prochaine. Alors, nous revoilà en ondes, Hélène Bédard et Francine Forget. Francine, vous nous amenez ailleurs.
Oui, mais toujours dans le dossier sur les arbres, okay. Dans le point du 2 novembre. Alors, l'auteur Frédéric Lewineau a rencontré Francis Allé, qui est un grand botaniste à 79 ans, qui s'émerveille toujours de leurs ressources et qui dit « oui, les arbres sont intelligents ». Alors, le point de « quand date votre amour des arbres ?» Monsieur Allé répond, de l'occupation allemande. Je vivais avec mes parents sur un petit terrain en Seine-et-Marne et j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec des arbres. Se nourrir, se chauffer. Plus tard, quand j'étais étudiant, j'ai assisté à la germination, puis à la floraison et à la fructification d'une plante sur mon balcon. Cela m'a fasciné. À l'époque, les forêts primaires semblaient éternelles. Aujourd'hui, elles sont en sursis. Effectivement. Dans les années 1960, elles occupaient quasiment toute la bande équatoriale. Si alors on avait affirmé qu'elles allaient disparaître en l'espace d'une vie d'homme, ça aurait fait rigoler bien du monde. Et pourtant, ça y est, nous y sommes. La rapidité avec laquelle ces merveilles sont parties est monstrueuse. En Europe, notre dernière forêt primaire, celle de Białowieża en Pologne, est en grand danger de disparaître. Pourquoi s'en inquiéter? Qu'avons-nous à y perdre? Demande le point. Du point de vue biologique, la forêt primaire est à la forêt secondaire, ce qu'un grand champagne millésimé est à un coca tiède. En 1982, un confrère américain, Terry Irwin, a multiplié par 10 la biodiversité mondiale de 3 à 30 millions d'espèces en se bornant à évaluer la biodiversité de la canopée tropicale. Cette découverte a orienté mon existence en me faisant concevoir avec des amis le radeau des cimes. Depuis notre première expédition, voilà 31 ans, nous avons découvert des centaines d'espèces nouvelles. C'est une mine d'or pour les laboratoires pharmaceutiques. En comparaison avec les canopées, les récifs coralliens sont pauvres. Or, quand la forêt est exploitée, la biodiversité dégringole. Je rappelle qu'une forêt secondaire, qui donc a été exploitée par l'homme, met 7 siècles à recouvrir son intégrité. D'où votre colère. Je n'arrêterai jamais de me battre contre cela. Malheureusement, cela n'a aucun effet. Je suis comme un médecin devant un malade en phase terminale. Très sincèrement, je ne crois pas que le monde pourrait vivre sans les forêts. ni les plantes herbacées, ni les océans n'assureraient une épuration de l'air aussi efficace que font les forêts. Vous qualifiez l'arbre de meilleur ami de l'homme. Étrange. On a des tas d'amis parmi les animaux de compagnie, ceux qu'on élève. Simplement, sur le plan écologique, les animaux et les êtres humains sont sur le même créneau. Ils mangent de la ressource végétale, ils émettent du gaz carbonique et absorbent de l'oxygène. L'avantage des arbres et des plantes, c'est qu'ils ont exactement sur le créneau inverse. Donc, on a beaucoup plus besoin des plantes que des animaux sur le plan écologique. Oui, les arbres sont les meilleurs amis de l'homme, de dire M. Allais. Vous comparez souvent l'arbre à un massif corallien. Pouvez-vous nous l'expliquer? La grande majorité des arbres est constituée de colonies de jeunes arbres qui poussent sur un vieil arbre. Les branches maîtresses sont en fait des individus différents. Là où existe un surplus d'énergie, apparaît un nouvel arbre qui pousse sur l'ancien. Cela concerne aussi bien les feuillus que les résineux. Du coup, peut-on parler d'arbres immortels? Une équipe espagnole a montré que, après chaque hiver, le génome des bourgeons est à nouveau juvénile. L'arbre entame chaque printemps avec un génome parfaitement identique à celui de la graine dont il est issu, même s'il est âgé de plusieurs siècles. Si on les maintient dans d'excellentes conditions de vie, les arbres ne meurent pas. Ils sont dotés d'une immortalité potentielle. L'individu ne vit pas spécialement longtemps, mais la colonie est immortelle. Les arbres qui ne sont pas des colonies vivent peu de temps. Par exemple, un palmier vit un siècle au maximum. Récemment, plusieurs travaux trouvent de l'intelligence aux arbres. N'est-ce pas pousser le bouchon un peu loin? Non, les arbres sont intelligents à condition d'abandonner la définition de l'intelligence telle que la donnent les dictionnaires. Voici la mienne. Quel qu'il soit, un être vivant est intelligent s'il est capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre, particulièrement ceux qui ont trait à sa survie et à son bien-être. Cette aptitude repose sur deux fondements. Savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser par la suite. L'intelligence s'exprime surtout dans des conditions difficiles, par exemple, celles du milieu naturel. Il serait toutefois erroné de penser que l'intelligence des hommes et celle des plantes sont superposables. Les plantes ont une intelligence parfaitement adaptée à leur vie de plante. Quant à l'intelligence de l'homme, j'ai à son sujet de fortes réserves. Alors, dans le point de novembre, sur les arbres.
Et nous revoilà, Hélène Bédard au micro. Je vais vous lire une petite nouvelle que j'ai capturée dans le journal de Montréal. Toujours au volant à 103 ans. Eh oui, Silvio Fréchette a eu 103 ans hier, le 16 novembre. Il prend encore souvent le volant pour se rendre seul au chalet qu'il a construit de ses mains dans les années 1950. Il a eu son premier permis de conduire à 19 ans, en 1933, après avoir appris à conduire dans la cour chez son père. À l'époque, la Société d'assurance automobile du Québec, SAQ que nous connaissons, n'existait pas et il n'y avait aucun examen pratique ni théorique. C'est d'ailleurs en conduisant le véhicule de son père qu'il est allé chercher son permis. Ils m'ont demandé si je savais chauffer. J'ai dit « ben oui », alors je suis arrivé avec un char. Son premier véhicule était un gros Buick beige, usagé, avec deux pneus de rechange bien installés sur les ailes des deux roues avant.
Il n'y avait pas de radio. Il se souvient que le réservoir d'essence était transparent pour qu'on puisse voir la quantité qui restait. Il n'y avait pas beaucoup de pitons, comme il dit. De mémoire, il croit l'avoir payé 300 ou 400 $. Ça me faisait plaisir, et ce qui me faisait mon grand plaisir, c'était de me promener avec les enfants assis en arrière. On n'était pas riches, on était fiers. Par la suite, il a vendu cette voiture et a commencé à conduire une camionnette. Il a investi dans sa camionnette en 1942 pour éviter d'aller à la guerre. Lui et son frère ne voulaient pas aller au front de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ils ont choisi d'investir dans une machine à creuser des puits et cette camionnette a été utilisée pour transporter l'équipement. Pour creuser des puits, c'est qu'ils travaillaient chez les cultivateurs et en travaillant pour eux, ils étaient exemptés de faire l'armée. Monsieur Rusé. Ceci dit, comme les autres aînés du Québec, Sylvio Fréchette n'a pas à réussir de tests théoriques ou pratiques pour garder son permis de conduire, on parle actuellement. Une évaluation dans un bureau de médecin suffit. Mon docteur m'examine partout. Il remplit mes papiers, il les envoie à Québec. Je suis correct pour 2 ans, dit-il. Le conseiller médical de la SAAQ confirme qu'un bilan de santé suffit pour renouveler le permis dans la majorité des cas. Le premier examen médical est demandé à 75 ans, puis aux 2 ans par la suite, à partir de 80 ans. On cherche des problématiques surtout fonctionnelles, dit le médecin de la SAAQ. Notre but n'est pas de suspendre le plus de monde possible, c'est d'identifier les gens qui ont des problèmes et de voir si ces problèmes affectent la conduite. Quand il y a une zone grise, la SAAQ peut demander à un médecin spécialiste ou encore de faire un test sur la route. Le conducteur n'a pas à utiliser les techniques enseignées à la SAAQ. S'il est considéré comme sécuritaire à la suite de son examen, son permis est renouvelé. Donc, le plus vieux conducteur du Québec explique sa longévité par le grand air qu'il respire en forêt. Il va à son chalet presque chaque fin de semaine depuis qu'il est dans la trentaine et il croit que cela l'aide à garder sa santé. Et il utilise encore sa voiture. Alors, je vous souhaite bonne route, M. Fréchette. Restez avec nous, la suite de l'émission des voies de service se poursuit après cette courte pause.
Autodidacte, libre comme l'air, célibataire, je ne
Alors, c'était Damien Robitaille et sa chanson « Homme autonome ».
Rebonjour, nous sommes de retour en studio. Hélène Bédard, Francine Forget et Mathieu Tessier. Nous allons poursuivre actuellement avec un éditorial écrit par le rédacteur en chef de l'actualité, ma revue Chouchou, que j'affectionne, que laquelle je puise des articles fort intéressants via Internet. Alors, rédacteur en chef, M. Charles Grandmont, a fait ce texte et c'est « Être un homme ». Pour aider à changer les attitudes envers le harcèlement et les agressions sexuelles, l'homme doit comprendre qu'il a un rôle important à jouer auprès des femmes. Bien des gars ont tendance à l'oublier. Le plus important pour définir un homme, c'est pas ce qu'il a entre les deux jambes, mais ce qu'il a entre les deux oreilles. Comme le rappelle l'historien israélien Yuval Noah Harari dans son magistral livre « Sapiens », une brève histoire de l'humanité, la différence entre les hommes et les femmes ne sont pas tant biologiques que culturelles. On naît, certes, avec les chromosomes du sexe mâle ou du sexe femelle, mais la suite est principalement définie par les mythes du moment sur les rôles, les droits et les devoirs des hommes et des femmes. Ceux-ci n'ont rien d'immuable, fort heureusement, car le passage de l'ouragan « moi aussi » montre qu'il y a un besoin de changement dans nos attitudes envers le harcèlement et les agressions sexuelles. Déjà, des transformations sont en cours. Les victimes ne sont plus forcées de choisir entre se taire ou faire appel à un système judiciaire dans lequel à peine une plainte sur 10 débouche sur un verdict de culpabilité. Elles peuvent se rassembler derrière un mot-clic, nouvel emblème de solidarité et source de courage qui aide à les délester du poids de la honte. Bien sûr, il faut chercher à minimiser les risques de dérapage bien réels de ce nouveau tribunal populaire pour que la somme des torts n'excède pas celle de ses bienfaits. À la lumière de cette vague d'accusations portées contre tant de ses congénères, un homme normalement constitué va se demander ce qui cloche par rapport à son sexe et ce qu'il peut faire pour aider. Le rôle de chevalier est encore, après tout, puissamment associé à son sexe. Son premier défi, c'est de se taire et d'écouter. C'est une habitude qui lui fait souvent défaut lorsqu'il est en compagnie féminine, comme peuvent en témoigner bien des femmes qui ont des collègues masculins. En écoutant, il prendra peut-être mieux la mesure de l'effet du harcèlement sur les femmes, ce qui n'est pas encore le cas, s'il faut en croire un sondage léger réalisé en octobre dernier. Les hommes québécois demeurent deux fois moins nombreux que les femmes à percevoir le harcèlement sexuel comme un problème très important. Peut-être même fera-t-il un petit examen de conscience. Si l'homme finit par comprendre qu'il a un rôle concret à jouer aux côtés des femmes dans la recherche de solutions, on vient de faire un pas de géant. Le harcèlement et les agressions sexuelles ne sont pas plus un problème de femmes que l'Holocauste était un problème de juifs ou la lutte pour les droits civiques un problème de noir, comme le soulignait récemment le chroniqueur Nicolas Christophe dans le New York Times. Rendu à ce stade, ce qu'un homme peut faire de très efficace, c'est de mettre lui-même de la pression sur ses confrères pour créer un environnement où leurs consœurs se sentiront pleinement respectés et traités équitablement. Est-ce faire preuve d'un optimisme démesuré que de croire possible une telle évolution des mentalités? Avoir la quantité d'hommes aux mains baladeuses et aux propos tendancieux qui sévissent encore aujourd'hui, on peut certes désespérer devant la lenteur de l'évolution de l'espèce, mais, à l'échelle de l'histoire humaine, ce n'est pas une marche vers l'égalité des sexes qui se déroule depuis que les Québécoises ont obtenu le droit de vote il y a trois quarts de siècle, mais un véritable sprint. D'immenses progrès ont été accomplis, et quand un bon vent souffle de dos, comme actuellement, il n'est que plus facile de presser le pas. Je vous rappelle, le dernier texte que j'ai lu provient du magazine Actualité par M. Charles Grandmont, rédacteur en chef de cette même revue. et publié le 10 novembre 2017. Nous poursuivons avec Francine.
Oui, alors maintenant, nous allons parler de crypto-monnaie. La mystérieuse technologie que tout le monde veut comprendre derrière cette crypto-monnaie, le blockchain. Elle intéresse à la fois les revendeurs de drogue, les cabinets comptables et la Banque du Canada. Qu'est-ce donc que la blockchain, la technologie sous le capot de la crypto-monnaie Bitcoin, qui ferait son chemin dans les plus hautes sphères de l'économie et dont la simple évocation fait exploser la valeur de titres en bourse? Un dossier de Tristan Péloquin et de Richard Dufour dans La Presse Plus du 11 novembre 2017. Pour s'y retrouver, crypto-monnaie. La définition, alors devise électronique échangeable via l'Internet, d'un ordinateur, d'un téléphone cellulaire ou de tout appareil informatique branché à un autre. L'échange se fait de pair à pair, sans l'intervention d'un tiers, comme une banque, mais les transactions sont vérifiées par un vaste réseau décentralisé d'ordinateurs qui assure de l'intégrité des transactions par consensus. On en trouve des dizaines en circulation. Elles ont toutes leurs particularités, mais leur principe de fonctionnement à code ouvert a été établi dans un document publié en 2008 par un développeur informatique utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Bitcoin, c'est la reine des crypto-monnaies. Depuis sa création en 2009, sa capitalisation a grimpé à plus de 180 milliards de dollars américains. Un Bitcoin vaut actuellement plus de 6 500 $ américains. Il est toutefois possible d'en posséder seulement une fraction dans son portefeuille numérique. Quelques marchands acceptent les Bitcoins à Montréal. On peut les échanger contre de l'argent sonnant et trébuchant dans des guichets automatiques spécialisés. On en compte une dizaine à Montréal. Ou sur des sites web d'échange, moyennant dans les deux cas des frais de transaction qui sont souvent assez élevés. Les transactions se font grâce à des applications simples d'utilisation. Il suffit de présenter le code QR associé à son compte pour démarrer le processus. L'échange peut prendre quelques minutes avant d'être confirmé dans la blockchain. Derrière le Bitcoin, une technologie perturbatrice. La Banque du Canada le qualifie de technologie qui a le potentiel de remplacer des systèmes transactionnels entiers, incluant les systèmes de paiement de base. Qu'est-ce donc que la blockchain, cette technologie qui suscite la curiosité des géants de la finance? Intrinsèquement liée à la monnaie virtuelle Bitcoin, la blockchain est le mécanisme informatique par lequel toutes les transactions en Bitcoin dans le monde sont enregistrées et validées entre l'ensemble des utilisateurs de la crypto-monnaie. Pour résumer grossièrement, le protocole informatique du Bitcoin prévoit que chaque transaction faite entre deux utilisateurs est diffusée à un réseau de milliers d'ordinateurs, appelés des nodes, qui placent cette transaction dans une file d'attente virtuelle en attendant d'être validée. Quand la transaction est confirmée, elle est combinée à des milliers d'autres transactions récentes dans un bloc de données contenant les détails des échanges. Les blocs de transactions sont ajoutés les uns à la suite des autres, d'où la fameuse blockchain, ou chaîne de blocs en français, dans un répertoire public relatant l'historique complet de toutes les transactions validées depuis la création du Bitcoin. On parle d'un grand livre comptable distribué, et c'est précisément cette technologie qui suscite l'intérêt du monde de la finance. L'immense avantage de la blockchain, c'est son immutabilité. C'est mathématiquement impossible de la contrefaire, dit Jonathan Hamel, cofondateur de Catalaxy. Dans une chaîne d'approvisionnement, c'est une source de vérité. C'est très utile pour suivre un actif du début à la fin d'un processus transactionnel, résume le cofondateur de la filiale du cabinet d'experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton, dédié exclusivement à la technologie de la blockchain et ses applications. En éliminant ainsi la nécessité de valider les transactions, la blockchain élimine l'obligation d'impliquer un tiers, comme une banque ou un notaire, pour assurer la véracité de l'échange. Mais les choses vont encore plus loin. Depuis le lancement du Bitcoin en 2009, des dizaines d'autres crypto-monnaies ont été créées, suivant essentiellement les mêmes principes informatiques et mathématiques. La Banque du Canada et son projet Jasper. Depuis 2016, la Banque du Canada met aussi à l'épreuve l'efficacité de la blockchain dans le cadre d'une étude de faisabilité appelée Projet Jasper, réalisée en collaboration avec 5 grandes banques canadiennes et un consortium de 22 banques internationales. La Banque centrale s'est servie d'une version modifiée d'Ethereum, une autre crypto-monnaie, pour simuler d'immenses transactions interbancaires représentant plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'étude a conclu que le grand livre ouvert partagé pourrait ne pas procurer dans l'ensemble d'avantages nets par rapport au système centralisé en place, notamment parce que les transactions peuvent être vues de tous. L'organisme vient néanmoins d'annoncer à la mi-octobre le lancement de la phase 3 du projet Jasper, qui créera une plateforme de paiement et de valeurs mobilières expérimentale utilisant la blockchain à la Bourse de Toronto et au sein de ses filiales. Les industries du prêt hypothécaire, de la réassurance et des services financiers peuvent aussi voir un intérêt important dans le blockchain puisqu'elle permet de facilement confirmer l'identité d'un participant grâce à des clés uniques de chiffrement tout en assurant son anonymat. Bref, la blockchain est là pour rester. Cette idée d'un réseau décentralisé de joueurs indépendants qui fait fonctionner un système complexe de façon sécuritaire, ça va perdurer. Il n'y a aucune façon de faire disparaître ça, estime M. Jeremy Clark, professeur adjoint au Concordia Institute for Information Systems Engineering. Alors, c'est un dossier qui a été publié dans la presse Plus du 11 novembre. Les auteurs, Tristan Péloquin et Richard Dufour.
Nous voilà de retour. Mon Dieu, après les bitcoins, moi, j'aimerais bien vous entraîner sur un sujet que l'actualité a publié très, très récemment, le 8 novembre, en fait. C'était un hommage à Mme Monique Bégin. Elle vient d'être honorée en recevant le prix Hommage pour sa carrière politique et a profité de cette tribune pour dénoncer la violence sexuelle. À Ottawa, la première élue québécoise à la Chambre des communes, Mme Monique Bégin, a dénoncé la violence sexuelle envers les femmes, y compris en politique, dans un discours prononcé au Château Laurier à Ottawa, à quelques pas du Parlement. Elle a soutenu elle-même avoir vécu des expériences désagréables lorsqu'elle était une nouvelle députée dans les années 70. Mme Monique Bégin, aujourd'hui âgée de 81 ans, s'adressait à une assemblée de députés, de ministres et d'employés politiques dans le cadre de la remise annuelle des prix des parlementaires de l'année organisés par les magazines Maclean's et Actualité, et ceci est organisé depuis 10 ans. Donc, Mme Bégin recevait le prix Hommage, remis pour souligner l'ensemble de sa carrière et de cette féministe de la première heure. Élue pour la première fois en 72, Mme Bégin est membre d'un club très rare, celui des femmes en politique. Sa cuvée,
renfermait seulement 5 femmes sur les 264 députés de l'époque, 1%. Son discours de remerciement a porté exclusivement sur les femmes en politique, sur la vague de dénonciations qui continue de déferler depuis l'affaire Weinstein aux États-Unis et ses répercussions au Canada et au Québec, et notamment avec le mot-clic « moi aussi ». Nous savons tous que quelque chose ne va pas depuis longtemps et qu'il y a un lien avec le pouvoir des hommes, a-t-elle dit avant de féliciter les femmes qui dénoncent leur agresseur. Je les admire et je les remercie. Le dernier mot qu'elle a traduit était « groping », a-t-elle dit, ce qui signifie « tâter ». Après une courte pause pour marquer le coup, elle a ajouté ce mot, m'a rappelé des expériences non désirées que j'ai vécues alors que j'étais une jeune députée. Après une nouvelle pause, elle a précisé qu'elle ne souhaitait pas en dire davantage. Madame Bégin a dénoncé la masculinité toxique de certains hommes et leur propension à vouloir dominer, soumettre les femmes, tenter de les contrôler. Elle dit avoir apprécié le titre d'une récente chronique dans le Globe and Mail « Masculinity is toxic. Men don't have to be ». L'ancienne ministre, qui a été secrétaire générale de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada entre 1967 et 1970, avant son saut en politique, a rappelé que cet exercice visait, à l'époque, à assurer aux femmes des chances égales à celles des hommes. C'était à propos de l'équité et des opportunités, a-t-elle déclaré à la fin de son discours, qu'elle a d'ailleurs dédié à la nouvelle mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Certaines observent maintenant que le débat se déplace vers l'égalité de revenus, mais ce concept, ainsi que la métaphore comme briser le plafond vert, ne s'attaque pas à la racine des problèmes sociaux comme les abus sexuels, le harcèlement. Derrière cet objectif d'égalité, l'homme reste la norme. Je ne suis pas intéressée à être l'égale de l'homme. Je veux qu'on s'attaque aux racines du patriarcat, comme l'écrivaine, la féministe et philosophe française Françoise Collin. L'égalité est un principe d'assimilation et non un principe de transformation sociale. Dans son discours, Mme Bégin a souligné que la députation féminine actuelle à Ottawa n'est pas encore assez nombreuse. Les députés représentent 26,3% de l'ensemble des élus, ce qui classe le Canada au 64e rang des pays du monde. Des études montrent que la manière de faire de la politique commence vraiment à changer lorsque les femmes représentent environ 33% des élus. On a du chemin à faire. Rappelons qu'en 2014, le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, a suspendu deux députés de son caucus en raison d'allégations de harcèlement sexuel sur deux députés du NPD. Les deux députés écartés, Massimo Pacchetti et Scott Andrews, ont depuis quitté la vie politique. Ces événements ont entraîné une réforme du processus de plainte pour les victimes des comportements déplacés de la part des députés du Parlement. Madame, dans la salle de bal, la députée néo-démocrate de Laurier-Sainte-Marie, Madame Hélène Laverdière, était une spectatrice attentive au discours de l'ancienne ministre libérale. « Je l'admire beaucoup », a-t-elle dit. Elle affirme ne pas avoir été surprise des propos de Mme Bégin tout en respectant son désir de ne pas vouloir en dire davantage sur sa vie privée à l'époque où elle était une nouvelle députée fraîchement débarquée à Ottawa. « C'est malheureusement l'un des sujets de l'heure. Il y a encore de nombreux défis pour les femmes, notamment en ce qui concerne le harcèlement, mais aussi le sexisme ordinaire dans les milieux traditionnellement masculins. » Mme Laverdière salue le discours d'affirmation de Mme Bégin en disant « Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. » Poursuivons avec les textes de Francine.
Oui, alors, comme c'est le Salon du livre de Montréal, je me permets à la fin de vous parler d'un livre. Franco Nuovo, dans ses mots, nous parle d'Hemingway à Mette Dernière dans Le Dernier Voir, soit celui de novembre 2017. Alors donc, Franco Nuovo s'exprime. Je vous ai déjà dit ma passion pour Hemingway, pour les auteurs américains du 20e siècle, pour cette génération perdue. Je n'ai pas changé d'avis. Mes sentiments et mon goût pour leurs mots sont les mêmes. L'autre dimanche, un dimanche matin comme tant d'autres, dans le couloir désert de ce sinistre sous-sol de Radio-Canada qui mène au studio 17, où on a l'habitude de dessiner des mondes et des idées, j'ai croisé le responsable littéraire du Devoir, Fabien Deglise, que j'avais invité, comme je le fais régulièrement, à venir faire l'autopsie d'un classique. Quelques semaines plus tôt, il était venu pour me parler du Vieil homme et la mer, de son auteur et du Nobel. À cette émission-là, il avait évoqué un roman imaginant la rencontre sur les derniers milles de leur vie d'Hemingway et de Dashiell Hammett, considéré par plusieurs comme le père du roman noir. Ce dimanche matin, donc, dans ce couloir sans froid, ce couloir trop froid, Fabien, connaissant désormais mon intérêt pour cette littérature, a sorti de son sac un bouquin en me disant « Tiens, j'ai un cadeau pour toi ». C'était Hemingway, Hammett, derrière, de Gérard Guégan, un écrivain, journaliste et scénariste français que je ne connaissais pas. Guégan ancre son récit en 1956, soit quelques années avant la mort des deux hommes. Les années ont passé, maganées par une vie dissolue. Ils portent sur leurs épaules, en pliant à peine les genoux, les guerres, les affrontements, les rivalités politiques et littéraires de tout un siècle, et leur jalousie aussi. Comme dans la fable, sortant probablement sa mort prochaine, un riche Hemingway part à la recherche de Hammett, son vieil ami. Oui, ami malgré tout. Il prend la roue à bord d'un taxi conduit par une magnifique femme noire. Il retrouve Hammett, cogne à sa porte, et les voilà tous deux face à face, face à leur passé, à leurs histoires, à leurs altercations. Ces deux géants ne sont plus ce qu'ils ont été physiquement et moralement. Ils ont perdu confiance et n'ont plus l'énergie de leur talent. Ils marchent, boitillent, se blessent, bien que pour le fier Hemingway, se fouler la cheville ne soit pas une blessure. S'accrochant malgré tout à leur bouteille, l'un subit les maux de sa prostate et l'autre les affres d'une dépression qui le guette. La faucheuse est présente partout sous la forme d'un revolver, d'un pistolet ou de la maladie. Une vie d'aventure, c'est court quand la mort est au bout. C'est ça que raconte Guégan. Les dernières années, les derniers moments avant la fin. En appendice, Guégan nous rappelle que Dashiell Hammett est mort le 10 janvier 1961 d'un cancer du poumon dans la chambre 823 du Lenox Hill Hospital. Et qu'Ernest Hemingway, lui, s'est suicidé le 2 juillet de la même année. Parce que même les géants finissent par tomber. Alors, dans les mots de Franco Nuovo, une critique à sa manière, de Hemingway, Hammett, derrière, de Gérard Guégan, et c'est dans Le Voir de novembre 2017.
Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Francine. Merci, Mathieu. Nos chers collaborateurs et collaboratrices. Et on se retrouve donc la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Hélène.
Et au revoir.